Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et je ne croyais jamais que j'avais la possibilité, moi qui étais très introverti, de devenir extraverti, de devenir commercial, d'aller prospecter, de faire du business développement. Pour mes parents, moi je pense que ils n'avaient pas les moyens de m'offrir l'éducation de très haut niveau, etc. L'école a été un très bon ascenseur social. Après, dans l'entrepreneuriat, le support entre associés est extrêmement important. Ça, de un. De deux, l'équipe que vous recrutez.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, je suis très fier parce que toutes les personnes que j'ai recrutées en 2019, ils sont toujours là.
Excellent.
On n'a pas eu une seule démission depuis 2019.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Omar Ben Aïcha. Il est CEO de CertiTrust Afrique et Moyen-Orient, expert en RSE et développement durable, de la maîtrise, de l'expérience et la volonté d'étendre encore plus son savoir et son expertise. Omar Ben Aïcha, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation.
Ravi de vous recevoir, Omar. Alors, si on revient déjà quelques années en arrière, retour dans le passé, rapprochez-nous un petit peu de vos premiers pas dans l'univers professionnel.
Écoutez, moi, mes premiers pas remontent un peu à loin. J'ai commencé à travailler à 21 ans, en 1994. Et donc, j'avais commencé dans un secteur atypique qui était le transport maritime.
D'accord.
Où j'ai évolué pendant 6-7 ans avant de me sédentariser. Et ça, je l'ai fait en 2000. Et d'ailleurs, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris 2 années de congé, on va dire, sans solde pour pouvoir faire un master. Et c'est ça qui m'a en fait aidé à réorienter un peu ma carrière, parce qu'en fait, depuis l'enfance, ce qui me faisait rêver, c'était plutôt les métiers du savoir, les métiers d'expertise.
D'accord. Donc, voilà. Vous pensez qu'on a besoin de pauses des fois, justement, vous venez de mentionner un point très important, le fait de stagner un petit peu. Est-ce que c'est important de s'écouter ?
Non, c'est extrêmement important de faire des pauses. Moi, celle de 2000 n'était pas la première, puisque j'en ai fait encore 2 autres. Et la meilleure façon de faire ces pauses, effectivement, c'est en tout cas à mon sens, c'est de revenir au monde de l'école, parce que ça vous permet de sortir un peu de votre carcan, un peu de votre petit univers qui vous semblait avant être tout ce qu'il dit sur Terre. Donc le fait déjà de rencontrer des professionnels qui viennent de d'autres univers et surtout d'être sur un monde de l'école et de discuter, d'échanger, et vraiment ça vous transforme complètement. Ça permet aussi un peu de restructurer votre façon de voir les choses, votre relation au travail, vos choix. Ça vous montre aussi le champ des possibles, puisque toutes les personnes qui sont avec vous dans un master ou dans un certificat de quelques semaines, ils viennent avec d'autres façons de faire, donc vous voyez qu'il y a d'autres possibilités.
Et vous faites donc cette pause, Omar, vous reprenez vos études. Comment les choses se sont enchaînées par la suite ?
Écoutez, justement, c'est les études qui m'ont permis de rencontrer mon premier employeur, qui est venu me chercher deuxième année de master pour un stage d'insertion.
D'accord.
Parce qu'ils avaient une problématique qui matchait avec le contenu de ce master. Et donc je suis allé chez ce premier employeur, on va dire ce deuxième employeur, donc en premier après la réorientation, chez qui j'ai commencé, c'était à l'époque Mobil Oil Maroc. Il m'a offert une opportunité et donc je suis parti. J'ai démontré aussi que je pouvais travailler dans un job sédentaire, pas uniquement à bord d'un navire. Et donc c'est comme ça que cette première pause m'a permis finalement d'aller dans un autre monde, celui du commercial et du développement. Alors que j'étais dans un monde plutôt très technique, et de la maintenance et de l'entretien. Et je ne croyais jamais que j'avais la possibilité, moi qui étais très introverti lorsque j'étais petit, je n'ai jamais cru que j'avais la possibilité de devenir extraverti, de devenir commercial, d'aller prospecter, de faire du business développement. Ça m'a complètement transformé cette première expérience, puisque effectivement, finalement, j'ai trouvé que beaucoup de choses dans la vie ne sont pas nécessairement aimées, peuvent être acquises, travailler sur soi. Et donc voilà, cette première, on va dire, rupture m'a permis justement de complètement me réorienter. Et c'est ce qui m'a donné aussi les skills supplémentaires, parce que les skills que j'ai eues dans ma première expérience étaient aussi extrêmement importants aussi, parce que skills que j'ai eues à la marine, c'était plutôt des skills qui m'ont appris à être résilient, à gérer le risque, à réfléchir, à demander des avis, à vraiment bien analyser les situations avant de décider. Par contre, la deuxième expérience m'a permis justement plutôt de prendre un peu plus de risques. Et voilà, c'est comme ça que j'ai embarqué dans le monde de l'entreprise et par la suite de l'entrepreneuriat.
Bah excellent. En tout cas, ça prouve encore une fois que quand on décide de sortir de notre zone de confort, on ne fait que découvrir des belles choses, des choses qui nous mettent peut-être mal à l'aise. Mais voilà, c'est un mal pour un bien, si on peut dire ça comme ça.
Moi, ce que je dis très souvent, aux jeunes, mes collègues et aux jeunes, je leur dis, écoutez, dans une carrière, il faut fonctionner avec des cycles de 3 à 4 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 à 4 ans, il faut changer. Alors changer, ça ne veut pas dire quitter l'entreprise. Ça peut vouloir dire aussi prendre d'autres responsabilités dans la même entreprise. Il ne faut pas hésiter à le demander. Surtout lorsque vous avez du talent, l'employeur, normalement, a envie de vous garder. Et il va écouter, il va pouvoir vous donner d'autres challenges et d'autres projets. Maintenant, si ce n'est pas possible, effectivement, vous pouvez aller ailleurs. Donc, il ne faut pas rester coincé, ce que j'appelle être coincé. Il ne faut pas rester coincé dans sa carrière. Il faut créer sa chance, parce que la chance, ça se crée aussi. Et ce changement, c'est ce qui permet de créer la chance. Alors, bien sûr, je rajouterai à tout ça, tout ce qui est aller dans les réseaux, rencontrer du monde, rencontrer d'autres personnes.
Faire du relationnel aussi, c'est hyper important.
Faire du relationnel, construire sa marque personnelle, son personal branding, tout ça, c'est très consommé. C'est des choses assez évidentes aujourd'hui. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'abord de prendre le contrôle, on va dire, de sa carrière, de sa destinée. Et il faut changer. Et c'est extrêmement important de se mettre dans des situations d'inconfort. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, lorsque j'ai sauté en entrepreneuriat, juste avant, j'avais pris une responsabilité sur 22 pays en Afrique.
D'accord.
Donc, c'était un risque élevé. Mon employeur me l'a proposé. C'était mon dernier employeur. Donc, c'était en 2016.
D'accord.
Donc, il m'a proposé d'aller sur l'Afrique, etc. Donc, c'était très difficile parce que j'avais 3 enfants. Dans le plus âgé à l'époque, il avait 10 ans, 12 ans. Et donc, voilà, ça veut dire 22 pays. Ça veut dire beaucoup de voyages. Ça veut dire aussi...
moins de disponibilité.
Un équilibre travail-famille qui n'est pas évident.
Ouais.
Mais c'est ça qui m'a permis, encore une fois, de découvrir encore d'autres possibilités. Et aussi, m'a permis aussi de me convaincre aussi de sauter et de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2019.
D'accord. Donc, vous êtes resté combien d'années en entreprise avant de sauter le cap de l'entrepreneuriat ?
Pratiquement 17 plus 9, ça fait 25 ans à peu près, 25-26 ans quand même. Et donc je me suis mis à l'entrepreneuriat à peu près à 45 ans. Aujourd'hui, toutes les études qui sont faites, notamment aux États-Unis et en Europe, montrent que les projets d'entrepreneuriat qui ont eu les meilleures probabilités et chances de réussite ont été montés par des gens qui sont en moyenne autour de la quarantaine. Aujourd'hui, ça c'est une statistique, il veut dire ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire qu'un jeune ne va pas réussir.
Bien sûr, c'est du cas par cas. Chacun son histoire après, bien sûr.
Cas par cas. Mais statistiquement, aujourd'hui, on sait déjà que 80%, jusqu'à 85% des startups, des projets, ils meurent avant 3 ans. Cette statistique est même valide au Maroc. Mais aujourd'hui, plus ou moins mondialement, on pense que l'âge, on va dire, qui est dans le plus de possibilités plus peut-être de capacité à réussir dans un projet entrepreneurial, c'est effectivement un âge où on a fait quand même de l'entreprise et on a suffisamment d'expérience et de réseau et de relations pour pouvoir réussir. Donc moi, j'ai sauté en 45 ans et je me disais à l'époque, allez, il faut y aller parce que dans 10 ans, 55, on n'aura plus la force physique, peut-être on a plus l'envie. Et donc j'ai sauté à 45 ans. J'ai pas voulu sauter tout seul, donc je me suis mis avec des amis, donc d'autres associés. J'ai appliqué la règle de aller seul, c'est aller très vite, mais aller à plusieurs, c'est aller plus loin. Et donc je me suis mis avec des associés, deux autres associés. Ces deux autres associés, chacun il a apporté aussi des capacités.
C'est important.
Sur un premier niveau. Voilà. Et ça permet de faire un plus un égal à 5 ou égal à 7 ou égal à 9. Hein. C'est très important aussi de s'associer, si ce n'est pas évident. Hein.
Ouais, des fois, c'est un peu compliqué.
Oui. Mais l'entrepreneuriat, moi, définitivement, c'est une continuité de mon travail en tant que salarié, dirigeant chez l'entreprise où j'étais, parce qu'en fait, j'étais entrepreneur, mais comme on l'appelle, j'étais intrapreneur.
Entrepreneur, ouais.
Voilà. Donc j'étais tout le temps sur des nouveaux projets, j'étais tout le temps sur des nouveaux recrutements, lancer des nouveaux produits, etc. Et donc l'entrepreneuriat, ça a été un peu la continuité de ce travail d'intrapreneuriat. Et l'entreprise où j'ai passé 17 ans hein, avant de se lancer, je lui dois aussi beaucoup de choses. Hein. J'ai contribué avec l'équipe à sa réussite, à son développement, mais je lui dois beaucoup de choses pour ce que je suis aujourd'hui aussi, hein, en termes d'expérience et voilà, en termes d'apprentissage.
Et ça, c'est hyper important, justement, d'être reconnaissant par rapport aux opportunités qu'on a eues des fois. Et aussi, c'est hyper important de tendre la main aux autres quand on est en entreprise et qu'on voit voilà, des éléments un peu motivés ou qui ont cette fibre entrepreneuriale, d'essayer un petit peu, justement, de les accompagner dans ce sens, ne serait-ce qu'en interne au début, comme on a fait avec vous. Et par la suite, ils pourront se lancer éventuellement à leur propre compte.
Oui, absolument. Et comme disait Steve Jobs, il disait, moi, je recrute les gens pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais déjà pour qu'ils me disent qu'est-ce que je ne fais pas bien et qu'est-ce que je dois améliorer. Et il est extrêmement important d'utiliser toutes les possibilités, toutes les compétences de son équipe, parce que même un jeune qui sort de l'école, qui vient chez vous, il faut lui donner la chance aussi de critiquer l'existant. Laissez-le pendant la période d'intégration, les deux premiers trois mois, à observer et demander lui de faire un petit rapport, ce qu'on appelle les rapports le terme va me revenir, mais c'est un rapport en fait où il pose toutes les questions parce qu'il vient de l'extérieur et il est un peu neutre. Hein,
il a une vision un peu plus fraîche
voilà,
aussi.
Il a une vision plus fraîche. Et donc même un petit jeune comme ça, ça apporte beaucoup de choses à l'entreprise en termes de possibilités d'amélioration. Après, deuxième chose extrêmement importante, si vous voulez aujourd'hui construire une entreprise et la développer, il faut aussi libérer le potentiel des gens. Il faut se débarrasser, et surtout ça, je le dis aux entrepreneurs, c'est pas parce que vous créez une entreprise et vous commencez à recruter qu'il faut mettre des organigrammes avec qui est le chef de qui, etc. Ça, c'est bien pour structurer l'organisation, mais laisser de l'espace libre aux gens pour qu'ils puissent prendre du risque, pour qu'ils puissent aussi faire le maximum de et donner le maximum d'eux-mêmes pour vous aider à avancer. Vous allez, c'est pas parce que c'est vous qui a créé l'entreprise que c'est à vous que revient de prendre toutes les décisions, de savoir tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment construire sur la base d'un travail d'équipe. C'est fondamental.
C'est vrai, le travail d'équipe, c'est hyper important. Omar Ben Aïcha, donc CertiTrust, parlez-nous-en un peu plus, le pourquoi du comment, pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Question de les rapprocher également de votre mission par la même occasion.
Oui, tout à fait. Donc très rapidement, CertiTrust, c'est une entreprise qui est un tiers de confiance. En fait, c'est une entreprise qui fait de l'évaluation, qui fait de l'audit, qui fait de la certification pour les entreprises, pour les personnes, et qui travaille avec tout type d'organisation. Ça peut être l'administration publique jusqu'à une start-up ou même jusqu'à une association. Il fait ce travail d'évaluation et ce travail de tiers de confiance dans deux domaines particuliers. Le premier domaine, c'est la transformation sociale ou sociétale, c'est-à-dire tout ce qui est lié au développement durable, hein, le RSE, ESG, durabilité.
D'accord.
Et donc, il évalue par rapport à des normes de durabilité, il assiste des clients pour gérer le risque, tous les risques qui sont liés au sujet ESG, tout ce qui est lié à l'environnement social et tout ce qui est lié à la bonne gouvernance d'entreprise. Et puis, il a une deuxième pratique qui est la confiance numérique. Donc, sur la partie confiance numérique, c'est plutôt tous les services liés qui apportent la confiance dans les outils de digitalisation. Par exemple, évaluer des entreprises qui mettent sur le marché des solutions de signature électronique. Évaluer des entreprises et auditer des entreprises qui mettent en place des systèmes de gestion de la cybersécurité pour s'assurer que ces systèmes sont vraiment bien mis en place, bien implémentés et permettent de protéger l'entreprise. C'est aussi, ça peut être aussi, par exemple, si je prends des technologies comme l'IA aujourd'hui qui est en train de se développer de façon importante. Donc notre job à nous dans les 2-3 prochaines années par exemple, c'est de développer des schémas de certification pour des solutions basées sur l'IA et des technologies de l'IA pour s'assurer qu'ils fonctionnent de façon éthique, qu'ils sont conformes à des réglementations, etc. Et donc nous, chaque fois qu'il y a une réglementation qui est établie ou qui est mise en place par un gouvernement ou une norme internationale ou nationale qui sort, ben nous, on est capable après de définir un référentiel et de venir évaluer par rapport à cette réglementation. Et donc, au Maroc, moi, j'ai démarré la branche africaine en 2019.
D'accord.
Depuis 5 ans. Et depuis, on a ouvert une filiale au Kenya, on a ouvert une filiale au Sénégal. On est aujourd'hui 15 personnes à Casablanca depuis. Et puis, nous avons, voilà, et puis avec les associés, nous avons des équipes aussi dans d'autres pays. Donc, nous sommes sur 6 pays aujourd'hui. Donc, en plus des 3 pays africains, nous avons, nous sommes opérationnels. Nous avons aussi des bureaux en France, au Luxembourg et au Canada, au Québec. Justement, avec l'association, pour moi, il fonctionne aussi lorsqu'il y a une complémentarité. Et donc, dans notre cas, toute la partie confiance numérique a été apportée par les deux autres associés. Et toute la partie transformation sociétale et tout ce qui est lié au développement durable et l'expertise sur l'ESG, sur la sustainability ou la durabilité, c'est moi qui ai apporté ça. Donc ça, c'est première complémentarité. La deuxième complémentarité, c'est qu'eux s'occupent de l'Europe, de l'Amérique du Nord, et moi, je m'occupe de l'Afrique. Donc ça, c'est la deuxième complémentarité. Donc moi, c'est très important, en fait, dans la réussite de l'entreprise aussi, de travailler sur ces assets matériels et immatériels qui permettent aussi à l'entreprise de réussir. Et moi, je suis très content du parcours parcouru par Certitrust, en tout cas, sur les 5 dernières années. On a ouvert juste avant le Covid, en 2019. Mais en fait, le Covid a boosté toute la composante cybersécurité. Donc, ça a été plutôt une très belle opportunité pour nous, puisque il y a eu beaucoup de digitalisation. Et donc, il fallait auditer.
C'était le bon timing.
Voilà, c'était le bon timing, absolument. Et puis le Covid, il a boosté aussi les sujets de durabilité aussi, hein, il faut le dire aussi. Parce qu'on a vu durant la période du Covid que les fonds qui étaient basés sur des critères ESG de durabilité étaient les fonds qui ont mieux performé durant la période de la crise Covid.
Et sur une note un peu perso, cette fois, Omar Ben Aïcha, quel a été le rôle de vos proches ou de votre entourage, alors que ce soit dans votre choix de carrière, votre orientation pro, le soutien justement lors du passage du salariat à l'entrepreneuriat, voilà, comment ça s'est passé avec votre entourage, votre petite famille, vos proches, etc.
Par rapport à mon entourage, je vais commencer d'abord par mes parents. Alors, pour mes parents, moi, je pense que ils n'avaient pas les moyens de m'offrir l'éducation de très haut niveau, etc. L'école a été un très bon ascenseur social. Donc, mes parents, ils n'avaient pas les moyens, mais ils ont fait une chose extraordinaire. C'est qu'ils m'ont mis à l'école. Ils ont veillé à ce que je ne quitte pas l'école. C'est-à-dire que pour eux, il fallait absolument que j'aille jusqu'au bout et que je puisse travailler. D'abord pour les aider, bien sûr, par la suite, mais aussi, ils voulaient que je fasse autre chose que ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est la première chose. Mes parents, ils ont joué un rôle extrêmement important par rapport à ça. Et je suis très reconnaissant et très redevable à eux par rapport à ça. Alors après, il y a eu des amis, on va dire, avant d'arriver à ma petite famille, parce que la petite famille, elle arrive un peu plus tard dans la vie. Après, entre les parents et la petite famille, il y a eu beaucoup d'amis. Il y a eu des amis aussi qui m'ont beaucoup aidé, notamment dans certains choix, à travers leur avis, à travers leurs recommandations. Et j'ai 2-3 amis à qui je suis aussi très redevable parce qu'ils m'ont donné la possibilité la possibilité d'évoluer, la possibilité de faire des choix, la possibilité aussi de découvrir autre chose, etc. Et il y a des patrons à moi, des N+1, qui ont façonné ma carrière et qui sont devenus par la suite des amis aussi. Il y en a 3. Chacun a été à côté de moi dans une partie, dans une période de ma carrière. Et ces patrons-là, ils étaient des gens qui ont impulsé ma carrière. c'est-à-dire qu'ils m'ont fait confiance et qu'ils m'ont donné plus de responsabilités.
Excellent.
Et grâce à leur choix, j'ai pu justement faire autre chose et puis aussi assumer des responsabilités qui m'ont permis d'évoluer dans l'entreprise où j'étais. À l'entreprise où j'ai passé 17 ans, je suis entré comme simple auditeur et j'ai fini directeur Afrique en charge de 22 pays en 17 ans. J'aurais jamais pu faire ça sans des patrons bienveillants qui se sont occupés de ma carrière et qui se sont occupés de donner un coup de pouce à ma carrière. Et j'arrive à ma petite famille, bien évidemment, qui est apparue dans le champ, dans le radar en 2004.
Mm-hmm.
Donc ma femme et puis mes enfants. Je pense qu'ils m'ont apporté beaucoup de sérénité. Et surtout, ils ont fait en sorte que je sois dans le confort lorsque je voyageais, lorsque je préparais mes MBA, etc.
Ouais.
Parce que c'était très souvent sur le temps familial. Ils n'ont jamais rien dit. Au contraire, ils étaient supportifs et ils étaient là pour aider, là pour s'adapter à moi, au mieux que ce soit moi qui s'adapte à eux, pour que je puisse tenir le coup. Et croyez-moi, moi je connais aussi beaucoup d'amis aujourd'hui qui commencent des MBA, ils n'arrivent pas à les terminer parce que justement, ils n'arrivent pas à avoir cet équilibre.
Mmh.
Et moi cet équilibre, je ne suis pas prétentieux, ce n'est pas moi qui a permis à cet équilibre d'exister durant ces périodes où j'étais soit à l'école, soit des périodes de carrière, dans la carrière où j'étais obligé de beaucoup voyager.
Oui.
C'est pas moi qui ai construit cet équilibre, c'est ma femme qui a construit cet équilibre et aussi mes enfants. Et d'ailleurs, moi, j'ai trois garçons, hein, le plus petit. Le plus petit, c'est une boutade que je vais raconter quand même à l'antenne de la radio. C'est toujours bien de vous raconter ce type de boutade.
Allez-y, avec plaisir.
Le plus petit, c'est celui qui a un peu plus souffert parce qu'il est arrivé la période où j'étais en train de faire mon PhD, et juste par la suite, je suis allé sur l'Afrique. Donc, c'est la période où il était entre une année et 7-8 ans. Et donc, le petit, maintenant, lorsque je lui dis, pas maintenant, mais il y a déjà 2-3 ans, lorsque je lui dis, mais arrête de travailler devant un écran, arrête de regarder le téléphone, etc., tu es addicté, etc. Alors, il se retourne, il me dit, mais toi, tu dois arrêter aussi d'être toute la journée rivé sur l'écran de ton...
Et la vérité sort de la bouche des enfants. Hein.
Absolument.
Il ne faut pas oublier.
Absolument. Il m'a rendu ça au tac au tac. Et donc, on se rend compte aussi qu'on a un impact extrêmement important sur les gens qui vivent avec nous. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait aussi.
Ouais.
Et donc, voilà, pour conclure sur votre question, effectivement, c'est très important d'avoir le support de la famille, le support des amis et aussi le support de managers dans les entreprises. Vous savez, la responsabilité, moi je le dis aux managers, je leur dis, c'est votre responsabilité. Vous pouvez impacter les carrières des gens, vous pouvez soit les propulser, soit détruire leur carrière. Il faut absolument assumer votre responsabilité. Il faut faire ce qu'il faut. Parce que vous-même, vous êtes là grâce à quelqu'un qui vous a ouvert les portes, qui vous a aidé. Donc, rendez ça, voilà, en retour, et aidez d'autres à avancer. Et effectivement, si vous n'avez pas le support de vos boss, etc., c'est difficile. Après, dans l'entrepreneuriat, le support entre associés est extrêmement important. Ça, de un. De deux, l'équipe que vous recrutez.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, je suis très fier parce que toutes les personnes que j'ai recrutées en 2019, ils sont toujours là.
Excellent.
On n'a pas eu une seule démission depuis 2019.
Et ça, c'est un très bon signe.
Voilà, c'est important. Hein. C'est important parce que vous, c'est votre entreprise. Vous avez investi, vous êtes entrepreneur, etc. Eux, ils sont salariés à votre service. Il faut encore plus s'en occuper que lorsque vous étiez comme eux salariés. Hein. Donc,
c'est vrai.
Extrêmement important.
Ben voilà, Omar Ben Aïcha, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger, d'en
merci
apprendre
Karima.
Plus sur votre parcours. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci Karima et à vous également. Et en tout cas, merci pour ce que vous faites et de permettre à ce storytelling de se faire et ce partage d'expérience de se faire. Merci.
C'est un plaisir, Omar. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt, Omar.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.